Donc, c'est ça, je suis content d'être ici ce matin. J'étais vraiment béni en fin de semaine passée avec Jean-Martin et puis le cours sur les disciplines spirituelles. Il y a eu une réunion là-dessus, que j'ai pu revoir des notions très intéressantes, des pratiques spirituelles très intéressantes qui relancent un peu notre foi. Et puis, je vous encourage à considérer tous ces cours qui sont à votre portée avec Etem et Bibi. C'est vraiment intéressant de voir les cours qui s'en viennent. Cet hiver, il va y avoir, par exemple, le cours de relations d'aide. Je ne sais pas si certaines personnes, ça les intéresse, mais aussi un cours sur la mission en contexte québécois, vraiment intéressant. Et un autre cours qui va être sur la synthèse de la foi évangélique. Donc, je vous invite à visiter Etem et Bibi, leur site, puis c'est une ressource qui est là pour nous, et puis ça, je vous encourage à considérer ça. Donc, vous vous souvenez, il y a un mois et demi, ça fait longtemps, j'ai fait un message sur, on pourrait dire, Dieu de vérité. C'était pas ça exactement mon titre, mais c'était sur une série. Et puis, une série qui s'intitulait... Est-ce que ma manette va marcher? Ouais. Ouais, c'était ça. La vraie religion, 2 points, le christianisme, top 5 raisons. Et est-ce qu'une personne se souvient pourquoi j'avais intitulé comme ça? Oui, Marie-André? Oui, exactement. Donc, c'est ça. Une personne, j'ai écrit ça sur Internet. C'est un article qui est accessible sur Internet. Donc, je me suis mis dans la peau d'une personne qui ferait des recherches pour qu'il tombe sur quelque chose qu'elle allait dire succinctement, de façon résumée, des bonnes raisons de croire en Jésus. Donc, c'est pour ça que j'avais intitulé ça comme ça. Là, j'ai changé le nom de ma série pour ne pas toujours avoir à me réexpliquer. Je l'ai intitulé « Dieu de vérité » à la place. Donc, on est dans la partie numéro 2 de cette série-là. Et puis, on avait vu des versets clés, deux entre autres. Le premier verset clé, c'est Psaume 31, verset 6, qui dit ceci. « Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, éternel Dieu de vérité. » Donc, c'est vraiment une série qui nous invite à voir Dieu comme étant un Dieu de vérité et voir cette caractéristique de Dieu. Et une des choses qui est vraiment importante, c'est que dans une perspective chrétienne, la vérité, ce n'est pas quelque chose de froid, de juste un fait direct et sans vie. Mais au contraire, c'est un Dieu. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. C'est dynamique, c'est vivant, c'est beau. C'est dans cette perspective-là qu'on continue notre série d'aujourd'hui. Deuxième verset clé qu'on avait vu la semaine, le mois et demi passé. Il faut vraiment faire une bonne révision pour vous ramener tout ça à la mémoire, ça fait longtemps. C'était 1 Pierre 3,15, le deuxième verset, qui dit « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Donc, 2 points importants avec ce verset-là, c'est ce qui a été souligné. Premièrement, sanctifier Christ dans nos cœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? On a vu ça il y a un mois et demi. Et puis, ça veut dire essentiellement, on l'a vu tantôt, le mot « sanctifier » veut dire « mettre à part ». Donc, « sanctifier Christ dans notre cœur », ça veut dire « mettre Christ à part dans notre cœur », dans le sens de l'élever, de le rendre distinct de tous les autres dieux, de toutes les autres idées et de toutes les autres affections qu'on pourrait avoir, qui soit vraiment dans notre cœur comme sur un piédestal, qui soit vraiment celui que l'on admire. Et comment qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on sanctifie Christ dans notre cœur? Eh bien, c'est la deuxième partie du verset qui répond. En étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de votre espérance. Donc, à réfléchir sur nos raisons qui motivent notre espérance en Jésus, on élève Christ par le fait même dans notre cœur. On commence à voir son côté qui est tous ses aspects qui sont inégaux, comment ils sont supérieurs et grandiose comparé à tous les autres dieux et toutes les autres religions. Donc, ça avait deux effets bénéfiques. Le premier, j'ai un peu de misère avec ma manette. C'est comme si... Est-tu comme complètement gelé?
C'est la neige.
Ouais, c'est ça. C'est bon. Il répond plus. Bon. Je sors là, puis il remet là, genre. Ouais, c'est ça. C'était quoi? Désolé du problème technique. C'est spécial. On va juste le skipper et voir. Peut-être qu'il est là. Oui, c'est ça. Bon, OK. J'espère que ça va marcher à partir de là. C'est-tu revenu? Bon. Fait que ça, c'est un peu le plan de la série. On a vu la première, c'était sur les prophéties concernant Jésus. On a vu un texte majeur qui était Genèse 22, où on a vu beaucoup de parallèles entre Isaac et Jésus. Et on a vu aussi que dans le texte était comme le récit était ouvert vers une prophétie où est-ce que on disait dans le fond que Dieu allait pourvoir sur une montagne et qu'il allait pourvoir à un agneau. Dans le fond, l'agneau restait à venir et cet agneau, Jean-Baptiste a témoigné qu'il l'a vu, il lui a rendu témoignage, c'est Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Donc, et c'est ça. La deuxième et la troisième raison qu'on va voir aujourd'hui, c'est la perfection morale de Jésus et l'enseignement de Jésus, comme étant à la fois révolutionnaire et aussi qui a vraiment un écho avec nos besoins existentiels. Quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », ça résonne à quelque part avec plusieurs d'entre nous. Donc, ce genre d'idée-là témoigne que, ou pointe vers l'idée que Jésus est vraiment, dans le fond, une espérance qui est bien fondée. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on se lance. Est-ce que mon PowerPoint est mort? Bon, je vais le mettre de côté. Si tu peux avancer au moins comme ça, tant mieux. Puis défile-les toutes comme ça, on va juste voir un peu là. Donc, peut-être quelques mots avant de commencer, en fait. Peut-être que certains d'entre vous, vous dites, c'est bien de voir les raisons pour lesquelles on croira en Jésus, mais c'est surtout important au début. Quand une fois qu'on est chrétien, puis on a eu cet éclair du Saint-Esprit qui nous donne la conviction que Jésus est le Fils de Dieu, on n'en a plus vraiment besoin, dans le fond. C'est plus pour les nouveaux dans la foi. Et puis, moi, je pense que ça, c'est pas vrai. Puis, ça, en fait, ça témoignerait peut-être d'une trop grande centralisation de la foi sur nous-mêmes. Que de dire que c'est plus important de penser aux raisons qui supportent notre foi. C'est, dans le fond, c'est de perdre en tête qu'on est appelé à communiquer cette foi-là à d'autres et qu'on est constamment appelé à exprimer notre foi dans des mots et d'une façon qui est pertinente aux gens de notre culture et qui peut résonner avec eux. Donc, c'est vraiment important à ce niveau-là, de toujours entretenir, dans le fond, cette réflexion sur c'est quoi mes motivations, c'est quoi mes raisons qui appuient ma foi. Jean-Claude Guibeau dit ceci dans son livre « Comment je suis redevenu chrétien ». C'est un journaliste et écrivain français. Il dit « Si le message, lui il parle du message chrétien, si le message est vivant, alors il doit pouvoir être relu et déchiffré par les hommes et les femmes d'aujourd'hui. » Avec les mots, la sensibilité et les connaissances de leur époque. C'est là, dans cette reconquête d'un langage intelligible qu'on peut comprendre, que se joue probablement l'avenir du christianisme. Donc, l'importance de toujours garder en tête, dans le fond, une pertinence pour les gens de notre époque. Donc, suis-je capable, comme l'apôtre Paul disait, d'être juif avec les juifs et d'être grec avec les Grecs, d'avoir une sensibilité à l'auditeur, à celle avec qui je dialogue, et puis d'apporter ma foi d'une façon qui est pertinente pour elle. Donc, mais ce n'est pas juste important dans notre rapport aux autres, c'est aussi important pour nous personnellement et en tant qu'Église de ne pas réfléchir aux raisons qui font notre foi chrétienne, peut rendre plus vulnérable notre propre foi, et peut faire en sorte aussi qu'on se sent impuissant quand que quelqu'un proche de nous nous exprime ses remises en question par rapport à sa foi ou des doutes. On peut se sentir impuissant si on n'a pas vraiment pris le temps de réfléchir à quelles sont les raisons qui font notre propre foi. Et aussi, si on n'accorde pas beaucoup d'importance à ça, on peut peut-être développer une attitude rigide concernant les questions difficiles de notre foi. Parce que, je veux pas, il y a des questions difficiles qui sont associées à notre foi. Des fois, on lit les Écritures, soit on peut être confronté à un passage difficile ou ce genre de choses. Donc, c'est important d'être ouvert à ça. Est-ce que tu peux avancer encore un point? Merci. OK. Alors là, on est un peu d'avance. Mais c'est correct. OK. Donc, sautons dans le sujet. Je vous inviterai à ouvrir dans votre parole. Puis j'aimerais qu'on lise ensemble Jean 1, 16 et 17. Ce matin, j'ai plusieurs versets à droite et à gauche. Habituellement, j'aime avoir un texte central qu'on décortique ensemble, qu'on approfondit ensemble. Mais j'ai plusieurs versets à droite et à gauche et je vais vous demander parfois d'en lire car je vais en avoir quelques-uns en même temps. Mais commençons avec Jean 1, 16 et 17. Donc, on parle de Jésus. Et Jean dit de lui dans le prologue, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. » Donc, intéressant de voir dans ce verset-là que Jésus n'a pas juste amené la vérité, mais en fait, la grâce précède la vérité. Et c'est un peu ce que je disais tantôt que la vérité, ce n'est pas quelque chose de froid, de déconnecté, d'impersonnel, mais au contraire, en tant que chrétien, on a une perspective personnelle sur la vérité. Et c'est autant important de refléter Jésus dans notre façon de partager notre foi qu'au niveau du contenu, que d'avoir une assurance au niveau de nos raisons qui fondent notre foi. Donc, la vérité n'est pas une réalité impersonnelle ou un système impersonnel, disons comme le karma. Dans l'effort qu'on a fait ensemble, un des points qui est ressorti, c'est qu'on aimerait être mieux équipé pour dialoguer avec des personnes de divers arrière-plans. Right? Donc, je pense que cette série-là nous aide à ça. Cette série nous aide à juste prendre ce qui est central à notre foi, mettre de côté ce qui est secondaire, qui est plus peut-être pointilleux, et puis de voir comment est-ce que ça peut être présenté aux gens qui ont d'autres noyaux différents. Donc, dans une perspective, disons, des religions indiennes, il y a un temple sikh ici dans le quartier. Il y a plusieurs personnes qui adhèrent à la religion sikh dans le quartier, ou même indienne, là, comme l'hindouisme. Dans cette perspective-là, la réalité ultime est impersonnelle. On est comme une grosse machine, si on veut. Et puis, ce qui règle la machine, c'est le karma. Le karma, c'est tout simplement la somme des choses bien et mal que tu as fait qui règle ta destinée. Et puis, dépendamment du niveau de bien que tu fais par rapport au niveau de mal, tu crées un bon karma et tu montes une échelle d'une vie à une autre pour éventuellement sortir de la grande machine et te libérer de cette machine-là. Et la libération, c'est quoi? C'est l'extinction, c'est le néant. Donc, c'est toute une grande machine qui est impersonnelle, qui t'amène à une fin impersonnelle qui est, dans le fond, le néant. Mais de pouvoir démontrer que, dans le fond, nous, on croit à quelque chose qui est personnel, qui est dynamique, qui est en bout de ligne, il y a comme un Dieu qui est un Père qui t'accueille, c'est vraiment comme plus réconfortant, plus attirant personnellement. Une autre vision du monde, peut-être, qui peut voir la réalité ultime comme étant impersonnelle, c'est la science. De plus en plus, peut-être au travail, vous êtes confronté avec des personnes qui valorisent beaucoup la science et puis qui vont parler de grandes théories de l'univers et de la cosmologie. Mais encore dans cette perspective-là, en bout de ligne, si toute la réalité ultime, c'est juste de la matière, on va juste tous mourir et puis l'univers va connaître une mort thermique. Et en bout de ligne, comme pour le karma, c'est le néant qui, qui est le point final. Mais nous, on pense qu'au contraire, la sommité de la création, c'est les êtres humains, les personnes créées à l'image de Dieu. Et puis ça reflète à la base un créateur qui est personnel, qui lui aussi est doué d'intelligence, de raison, etc., d'émotion. Et puis, il nous appelle à revenir à lui. Et donc, la réalité ultime est vraiment personnelle. Fait que le PowerPoint est KO. Il marche? OK. C'est comme ça. Tiens. OK. Bon, super. Je l'ai backé. OK, donc, pourquoi est-ce que, là, j'aimerais qu'on parle un peu ensemble de la perfection morale de Jésus. Pourquoi est-ce que ça, c'est important au niveau de la fondation de notre foi? Eh bien, c'est important parce que, disons que, si on penserait au contraire, disons que notre prophète ou le fondateur de notre foi aurait des gros problèmes de caractère ou des même juste quelque chose ici et là qui sont des actions immorales, je pense que ça lancerait un doute sur, dans le fond, tout le message qu'il a apporté. Et je ne dis pas par là nécessairement que tous les prophètes de Dieu avant étaient parfaits. On sait que Moïse, par exemple, a commis un meurtre avant que Dieu l'appelle, mais c'est que après l'appel de Moïse, tu vois qu'il vraiment il a changé, mais il n'était quand même pas parfait. Et puis, on voit dans plusieurs autres religions que les fondateurs ont eux-mêmes laissé des traces qui laissaient comprendre qu'ils n'étaient pas parfaits. Et c'est le contraire par rapport à Jésus. Donc, ici, j'aimerais juste qu'on considère ensemble le fait que... c'est ça. Ce point-là est important, surtout parce que notre conscience morale est probablement le détecteur ou le critère le plus important concernant, dans le fond, la façon de reconnaître Dieu. Si vous demandez par quel critère est-ce que je peux faire sens de toutes les religions qui sont là, eh bien, le critère moral, d'après moi, c'est vraiment le détecteur moral le plus important, le détecteur divin le plus important. Donc, on va regarder ensemble divers passages avant de regarder les Écritures, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à Jésus à ce niveau-là. Voici, par exemple, ce que Confucius disait de lui-même dans les entretiens. Il dit « Pour ce qui est du savoir livresque, j'en vaux bien un autre. Pour ce qui est d'agir en homme de bien, je suis encore loin du compte. » Encore, il disait « Je ne saurais prétendre à la sainteté ni à la vertu. » Tout au plus, peut-on dire que je m'y applique sans trêve et que j'en enseigne les voies sans me lasser. Et Confucius, c'est le fondateur du confucianisme, qui est une des trois grandes religions en Chine. Mais on voit là-dedans que, dans le fond, il démontre lui-même qu'il aspire au bien, puis il a vraiment des belles valeurs, il enseigne vraiment des belles valeurs, mais il est encore loin du compte, il affirme lui-même ses limites humaines. Et puis, dans la même perspective, oui, il disait ceci un peu plus loin, et dans ces lignes, moi, je me disais, c'est comme s'il recherche Jésus. « Je n'ai encore jamais vu un homme qui aime vraiment le bien et qui haïsse vraiment le mal. Qui aimerait le bien ne lui préférerait rien d'autre. Qui haïrait le mal ferait le bien de telle sorte que nul mal ne pourrait plus l'habiter. S'est-il jamais trouvé quelqu'un qui ait poursuivi le bien de toutes ses forces, fût-ce un jour? » Et pourtant, ce n'est pas la force qui nous manque. Peut-être y a-t-il des gens à qui cette force manquerait, mais pour ma part, j'en ai jamais rencontré. Donc, je trouve que c'est intéressant parce qu'en lisant Confucius, qu'il y a des belles valeurs, tu vois qu'on dirait que Confucius aspirait à connaître Jésus. Il cherche cette personne qui n'a pas commis le mal une seule journée de toute sa vie. Et puis, si on se tourne vers les Écritures, on voit que Jésus a accompli ça. On va lire bientôt, si trois personnes pourraient aller chercher ces textes-là. Ésaïe 53, 9 à 11. Est-ce que quelqu'un peut me lever la main et me dire qu'il a, qu'elle sait? Une autre personne, Jean 8, 46. OK, Maritza, merci. Et puis une troisième personne pour, excusez-moi, Acte 3, 14. Quelqu'un d'autre pourrait lire ça? OK, merci. Oui, Isaïe 53. Par ce verset-là, on voit que la perfection de Jésus était même quelque chose de prophétisé. Vas-y. Deux éléments importants là-dedans, c'est que ça dit qu'on a mis son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait commis, qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'ait pas eu de fraude dans sa bouche. Donc, il n'avait pas commis d'injustice. Et puis, dans le même texte, ça dit aussi que, au verset 11, « Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. » Donc, on voit que c'était vraiment... prophétiser qu'une personne sans péché allait venir. Deuxième personne, Maritza?
Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas?
Donc, Jésus lui-même disait qu'il n'avait pas péché. Que, en fait, aussi, Jean 14, 30 va dans le même sens. Je vais le lire. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Donc, le prince de ce monde, Satan, n'a rien en Jésus. Jésus était complètement saint, parfait, et puis il pouvait être cette victime expiatoire pour nos péchés. Troisième personne qui est... Hein?
Mais vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé comme une faveur qu'on vous remette le meurtrier.
Donc, on voit par là que les apôtres aussi ont témoigné de la justice de Jésus, de sa sainteté. Et puis, c'est intéressant parce que les apôtres ont entouré Jésus pendant 3 ans de temps, 12 jeunes hommes, jour et nuit, pendant 3 ans, qui étaient avec lui. Certainement, s'ils avaient vu en Jésus quelqu'un qui avait des crises de colère parfois, ou qui était impatient, ou qui était imparfait, ils n'auraient pas après ça prêché la perfection de Jésus, qui est une vérité fondamentale au christianisme. Le juste est mort pour les injustes, afin que sa perfection nous soit transférée à nous qui croyons en lui. Et même, c'est intéressant parce que même Jacques et sa mère, ses frères dans le début de Actes, étaient parmi les disciples. Donc imaginez-vous, eux, ils ont vécu avec Jésus pendant toute son enfance, son adolescence, et puis ils ont adhéré aussi au cœur du christianisme qui prêche la perfection de Jésus. Donc c'est vraiment comme quelque chose d'incroyable. Et c'est essentiel pour notre foi. Qu'est-ce que ça change pour nous? Eh bien, un passage dans Hébreux 10, 14 dit ceci. Peut-être que vous pouvez tourner avec moi, on va le lire. Je vais le lire avec vous. Hébreux 10, 14. Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Wow! Ça veut dire que Bill, tu es parfait à perpétuité, à perpète. Hey, hein? Tu sais, habituellement, on dit condamné à perpétuité, mais là, on dit tu es parfait à perpétuité. Tu es pris avec cette perfection-là. Mais, wow! Il nous a rendus parfaits. On n'a plus à lutter avec nos imperfections dans le sens que de se culpabiliser puis de se morfondre et de se taper dessus avec notre imperfection. On n'a plus à faire ça. Jésus a payé le prix pour nous, son sang parfait a coulé et puis sa perfection nous a été transmise et puis on est pleinement accepté par Dieu. On est pleinement reçu tel que nous sommes et puis ça, c'est sans parallèle en... Cette gratuité au niveau de l'accès à Dieu, c'est vraiment sans parallèle. Il y a juste Jésus qui peut nous offrir cela. Et puis, c'est vraiment Intéressant de le voir. Dernier verset en lien avec d'autres religions, je ne les ai pas lus, mais Mahomet lui-même disait qu'il était pécheur, ou du moins Allah disait qu'il était pécheur. Endure donc, car la promesse d'Allah est vérité. Implore le pardon pour ton péché et célèbre la gloire et la louange de ton Seigneur, soir et matin. Donc, c'est Allah qui parlait à Mahomet. Encore une fois, un autre passage. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah et implore le pardon pour ton péché ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah connaît vos activités sur terre. Donc, et puis, dans le Coran même, c'est intéressant parce que dans ce passage-là, sourate 19, versets 17 à 21, on parle de la sainteté de Jésus, que Jésus est né saint et puis que Jésus a une naissance miraculeuse. Donc, même dans le Coran, comme Jésus est supérieur, si on veut, à Mahomet, il est sans péché, il a une naissance miraculeuse. Donc, je trouve que c'est intéressant. Et puis, c'est intéressant de souligner ça avec les gens. Comment est-ce que tu atteins cette perfection, ou comment tu atteins ce stade où tu es comme, tu as pu à lutter, tu as pu à te morfondre, tu as pu à te culpabiliser. Comment tu atteins cette paix profonde? Est-ce que c'est ça, c'est par mille et une étapes que tu dois comme monter comme une échelle, ou bien c'est par une communion personnelle avec un Dieu qui est personnel? Et puis, je pense que de voir la perfection de Jésus rassure le fondement de notre foi. Ici, on va skipper, puis on va aller au deuxième, qui est en fait le troisième point dans toute la série, sur son enseignement, sur l'enseignement de Jésus. Dans cette section, j'aimerais parler de deux grands volets. Le premier concerne la progression morale que l'enseignement de Jésus apportait à l'humanité. Puis dans le deuxième cas, c'est, comme j'ai dit tantôt, la résonance existentielle que ça a avec nous. J'aimerais lire une citation de Jean-Claude Guibaud, qui écrit ceci dans le même livre que j'ai fait référence tantôt. Je veux dire qu'au cœur même de cette modernité sécularisée, que nous croyons agnostique et même agressivement anti-chrétienne, du moins en France. La trace chrétienne est plus présente que je ne l'imaginais. Je ne cacherai pas que cette découverte a été un vrai choc. Une remarque de René Girard me revient aujourd'hui en mémoire. C'est ce qui est de chrétien en elle, dans les sociétés modernes, qui les empêche d'exploser. La plupart des convictions auxquelles nous adhérons spontanément, celles qui sont inscrites dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1948 et qui fondent la démocratie occidentale, trouvent leur source dans le biblique. Ce n'est pas une profession de foi, c'est un constat. Donc, c'est vraiment intéressant. Il dit que, dans le fond, essentiellement, les enseignements de Jésus dans les évangiles ont amené la civilisation occidentale à avoir les valeurs qu'on a tous spontanément, comme par exemple celle où est-ce qu'on dit que tous les hommes sont égaux, ils ont tous des droits. Ce genre d'idée-là vient d'où? Ce genre d'idée qu'on a tous des droits qu'il faut respecter, ça vient entre autres d'une bonne partie des idées des évangiles, où est-ce que Jésus, comme on a vu la semaine passée, j'ai écouté la prédication de Daniel par Internet, et puis Daniel faisait référence à Matthieu 18, 5, qui dit essentiellement, je pense que je l'ai ici, « Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Donc, Jésus s'associe au plus faible, au plus petit. Qu'est-ce que ça dit sur la valeur des enfants si Jésus dit « Comment tu traites un enfant, c'est comment tu me traites moi. » Quelle valeur ça vient communiquer aux enfants? Ça vient communiquer toute une valeur. Parce qu'on se dit, waouh, c'est comme Jésus est au travers de cet enfant-là, il a une valeur incroyable. Et puis, on a tous une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Et donc, ça fonde un peu là, cette idée, entre autres, des droits. Je ne sais pas si on peut mettre la vidéo ici, à ce moment-ci, juste une partie du vidéo sur l'heureux naufrage, qui est un documentaire qui va sortir bientôt. Peut-être que certains d'entre vous l'avaient vu. C'est juste une vidéo qui parle de la spiritualité au Québec, puis des valeurs québécoises. Et dans la partie du vidéo que je veux montrer, ça dit essentiellement ça, que les valeurs occidentales, en tout cas beaucoup d'entre elles, ont un lien avec les évangiles. Et puis, c'est important de voir ça. Et par là, on voit un peu comment l'enseignement de Jésus a pu être révolutionnaire et apporter vraiment beaucoup à l'humanité. Peut-être. Oui, c'est ça. Peut-être en attendant que Pascal continue. Dans le même sens, encore Jean-Claude Guibaud, il disait ceci. Il parlait de. C'est vraiment intéressant d'écouter ceci. Tout en combattant le christianisme, Friedrich Nietzsche, comme vous connaissez Nietzsche, c'est comme un grand athée là, qui était vraiment agressif contre le christianisme. Donc, tout en combattant le christianisme, Nietzsche prend très au sérieux sa fondamentale nouveauté. Il la considère comme une catastrophe, mais il concède, pour s'en lamenter, que le message évangélique a bel et bien changé l'histoire du monde en privilégiant la victime sur l'oppresseur. En ouvrant la voie à ce qu'il appelle dédaigneusement une morale des faibles et des esclaves, Nietzsche aperçut mieux que quiconque la puissance prodigieuse de cette subversion évangélique. Essentiellement, Nietzsche disait « Le christianisme, c'est pathétique. Pourquoi? Parce que ça dit que les plus faibles, les esclaves, les rejetés ont une valeur qui est importante. Et puis, pour ceux qui veulent avoir la puissance, bien, ça va comme un peu à l'encontre de leur idéologie. » Et puis, fait qu'on va écouter ça dans cette perspective-là. Donc, ici, je veux que le temps avance, fait que je vais y aller avec le dernier point. Et puis, le dernier point, c'était la résonance existentielle du message de Jésus, qui atteste un peu encore comment son enseignement est vraiment la vérité. Et puis, il y a William Clifford qui dit ceci dans un livre sur les besoins existentiels. Il dit... Les deux idées de base de ce livre sont le pouvoir d'attraction du besoin et la capacité certifiante de la raison. Le besoin sans la raison est aveugle, mais la raison sans le besoin est stérile. Autrement dit, comme nos besoins, comme j'ai dit tantôt, on entend des versets qui disent essentiellement « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Il y a des besoins existentiels profonds que ça vient chercher. Le besoin d'être aimé, le besoin d'avoir de l'espoir, la vie éternelle, la vie après la mort. Ça résonne vraiment profondément avec nous. Peut-être qu'on est habitué à l'entendre, puis maintenant, on passe par-dessus, mais c'est vraiment des besoins importants que ça vient rejoindre. Et puis, ça attire. C'est vraiment quelque chose qui motive. C'est comme le moteur qui pousse les gens à aller vers. Et puis, c'est super important. Et l'autre côté aussi, les raisons plus objectives aussi le sont. Mais comme C.S. Lewis dit, les besoins que nous avons qui nous attirent à Christ sont une raison en tant que telle de mettre notre foi en lui. C.S. Lewis disait ceci, « Les créatures ne naissent pas avec des désirs à moins que la satisfaction de ces désirs existe. Un bébé ressent la faim. La nourriture existe. Un caneton veut nager. » L'eau existe. Les hommes ressentent le désir sexuel. Le sexe existe. Si je trouve en moi un désir qu'aucune expérience dans ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que j'ai été faite pour un autre monde. Donc, on pourrait dire la même chose pour presque tous les besoins. Ici, j'ai vraiment le besoin fondamental d'être aimé, puis que dans tout le monde, je ne me sens jamais aimé parce que les gens sont... on est tous imparfaits, on sent aimer la plupart du temps, mais on vit des déceptions dans d'autres moments. Donc, si j'ai ce besoin-là d'être aimé parfaitement, mais que personne dans ce monde ne m'aime parfaitement, l'explication la plus probable, c'est qu'un Dieu d'amour veut m'aimer parfaitement, et puis c'est exactement ce que le christianisme proclame. Donc, j'aimerais juste qu'on termine en lisant ces versets-là qui viennent... démontrer certains besoins existentiels que l'enseignement de Jésus et du Nouveau Testament répondent. Fait que peut-être quatre personnes, on va finir avec ça. Donc, quatre personnes pourraient lire ces versets-là. Un Jean 3,16, tu sais par cœur? Qui connaît un Jean 3,16 par cœur? On connaît tout Jean 3. Vas-y. Non, c'est pas celle-là. OK, si vous connaissez Jean 3,16, hein? Quelqu'un là-bas? Ah, ça c'est Jean 3,16. Ah. Nous avons connu l'amour. Avant, on ne connaissait pas l'amour. Wow! On a connu l'amour quand que, on a compris le sacrifice qu'il avait pour nous. Vraiment puissant. Ça vient vraiment rejoindre le besoin d'être aimé. Deuxième passage, quelqu'un? Pierre 5, 6 et 7? Oui.
Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Encouragement. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous.
Ces préoccupations, ces tracas, ces inquiétudes qui nous assaillent, de pouvoir les décharger, de pouvoir les remettre avec Dieu qui prend soin de nous. Waouh, ça fait du bien à l'âme, là. Ça fait du bien à tout mon cœur, etc. Et ça, ça résonne existentiellement. Numéro 3, quelqu'un? Oui?
Ainsi donc, puisque ses enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leur condition. Il a fait pour réduire à l'impuissance, par la mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage, leur vie durant, par la peur de la mort.
Par la peur de la mort. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui avait vraiment une peur de mourir ou qui a déjà eu dans sa vie une peur de mourir? Moi, j'ai deux personnes au moins que je connais qui ça a été vraiment comme vraiment quelque chose de clé. Mais ici, ça dit que Jésus peut nous délivrer de cette peur-là. Jésus nous donne une vie, nous offre la vie éternelle. Et puis, waouh, ça c'est quelque chose quand même. Dernier verset, peut-être Jean 14, 23, on va laisser faire Hébreux 13, 5. Ou... Ben, OK, si vous l'avez déjà, si vous l'avez, allez-y, puis on va aller aussi Jean 14, 23. Dans ce verset-là, moi, je vois juste la présence de Dieu, tout simplement. Peu importe où est-ce que je suis, comment ça va, dans les différents endroits où je suis, Dieu est avec moi. Comme quand que le jour où Dieu est venu me chercher, je me souviens, le premier volet, c'était tout négatif. Je faisais comme une réalisation du monde, du pouvoir des ténèbres. Et puis, à un moment donné, je pensais mourir. Et puis, quand j'étais certain que j'allais mourir, comment je l'exprimerais ça, c'était que j'étais vraiment comme, et c'était pour moi comme l'enfer, c'était comme d'être dans les ténèbres, seul, conscient, mais seul. Ça, c'était vraiment frappant, d'être seul éternellement, c'était comme ça, je pensais que j'étais mort, que j'allais être seul éternellement dans les ténèbres. Et puis, le dégoût que ça m'a donné, c'était vraiment incroyable. Mais ici, on voit que ça dit que ceux qui aiment Jésus, qui mettent en pratique ses commandements, Jésus vient avec son Père et fait sa demeure en lui. Il habite en nous, il est avec nous tous les jours, la parole de Dieu dit. Et ça, c'est important pour nous. On ne veut pas être seul. La solitude existentielle, ça peut vraiment gruger beaucoup d'âmes dans ce monde. Donc, ça répond à d'autres besoins encore. Et Hébreux 13, 5? Hébreux 13, 5, je crois. Ouais. Je crois que oui, moi je me suis trompé.
Il y a encore un verset que quand je le lis, j'ai encore comme les motons, puis je pourrais comme pleurer facilement. Là. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement, car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas. Non, je ne t'abandonnerai jamais.
Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Car là, c'est la présence de Dieu, la présence éternelle de Dieu qui est promise. Et puis, fait que c'est vraiment puissant ça. Puis, résonance existentielle, c'est ça. La plupart d'entre nous sommes attirés à Christ sur cette base. Puis c'est parfaitement légitime, c'est parfaitement correct. Et puis, c'est bien d'en être conscient aussi, parce qu'après ça, on peut aider d'autres personnes qui ont des besoins comme nous à voir ces besoins-là, puis aussi à voir comment Jésus peut y répondre, comment Jésus peut venir les combler à ce niveau-là. Donc, je vais terminer là-dessus et prions ensemble, et puis le groupe de musique pourra s'avancer. Bien, Père Céleste, je veux te remercier pour... parce que tu es un Dieu de vérité, mais pas juste une vérité qui est froide et distante et plate. Seigneur. Au contraire, tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu rempli de grâce. Et puis, tu es un Dieu qui répond, Seigneur, à tous nos besoins les plus profonds, Seigneur. Et je te demande de faire en sorte que ce matin, on puisse saisir ça pour nous et puis qu'on puisse, par ton esprit, voir les multiples raisons que nous avons de mettre notre espérance en toi. Aide-nous, Seigneur, aide chaque personne à être capable de mettre des mots sur leurs raisons et puis d'être capable de les exprimer lorsque vient le temps et qu'on puisse tous être prêts à exprimer cette foi et qu'on soit, Seigneur, qu'on soit à l'aise, Seigneur, de faire cette mission que tu nous confies, qu'on puisse même y trouver une joie, Seigneur Dieu, vraiment un zèle là-dedans. Donc, je te remets chaque personne qui est ici ce matin et je te demande de nous accompagner tout au long de cette journée, que cette parole puisse résonner en nous, le fondement de notre espérance. En quoi consiste-t-il? Dans le nom de Jésus. Amen.